Marie Cyprinette, au revoir.
Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Résiste, prouve que tu existes.
Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé.
Résiste.
Debout, fameux esclaves.
Hey! Salut chères auditrices, chers auditeurs de Radio Larzac. Bienvenue dans la saison 2 des Cyprinettes vous guettent. Et nous sommes ravis, oui, ravis de vous y retrouver. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nos cyprines se sont répandues. Oui, souhaitons la bienvenue à Marie-Jeanne que vous connaissez plus en tant que technicienne. Cette année, elle va mettre sa cape de super bruiteuse. D'effets sonores et tutti quanti. Et puis, accueillons Émilie, qui, sur cette prums, va être notre fil d'Ariane. Mais pas que, puisqu'Émilie, tu vas nous faire un peu de blablabla.
Wesh, Émilie, elle est dans la place.
Un big up.
Bonjour, Cyprinette. Super, t'es contente d'être là? Je suis ravie.
Alors, sans plus attendre, dans nos culottes, ce mois-ci. Instant coiffure avec Émilie qui va blablater sur les crépus. Ensuite, Chloé va rappeler l'importance de rester concentrée pour lutter contre la récupération des combats féministes. Et enfin, Mimi nous dira « Oui, mais peut-être non, mais qui veut dire oui, mais je sais, non, mais le consentement. » Et puis, non, avant le consentement, il y aura peut-être la zapette de Marie que j'avais oublié qui était marquée là. Chloé, c'est quoi le thème de cette émission ?
Eh ben en fait, on s'est dit même que ça serait un thème pour deux émissions, il me semble, voire trois, quatre. Mon corps est un champ de bataille. Attention.
Ah ! Allez, c'est parti sur l'instant coiffure.
Instant coiffure. Coiffure dans
les Cyprinettes vous guettent.
Bouge tes cheveux.
Bouge tes cheveux.
Oui, bouge
tes cheveux.
Vas-y bébé.
Bouge
tes cheveux.
Si t'es bon comme on les aime, vas-y bouge tes cheveux. Bouge tes cheveux. Danse bébé, bouge tes cheveux. Même si t'as la boule à serre, vas-y bouge tes cheveux. Bouge tes cheveux. Petit sauvage, on bouge tes cheveux.
Instant coiffure dans les Cyprinettes vous guettent.
Mon corps est un champ de bataille. Mes cheveux le sont aussi. Littéralement. Ils s'en mêlent, se frottent. Ils forment des nœuds dans tous les sens. Quand on les touche, ils font du bruit. Un bruit de paille. Parfois ils bouclent. Parfois ils sèchent. Ils sont l'attraction des copains et des copines. Ils sont rigolos avec leurs petites boucles. D'ailleurs, quand je les laisse à l'air libre, lâchés comme des chiens fous, c'est une grosse touffe bien noire qui trône sur ma tête. C'est encore plus rigolo et tout le monde a envie de toucher. Mon corps est un champ crépus. Du moins ce qui en ressort au-dessus de ma tête. Je suis métisse et mes cheveux sont jugés, positivement ou négativement. Ils m'appartiennent pourtant.
Don't touch my hair. When it's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go where we meant to go. They don't understand what it means to me. But we
to go where we've meant to know. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine. You know this here is my shit. Roll the ride, I gave it time. But this here is mine.
What is it?
La dernière chanson de Solange, Don't Touch My Hair, Ne Touchez Pas Mes Cheveux, chanson que je vais utiliser comme illustration pour vous parler du mouvement Nappy et des cheveux des femmes noires sur le continent africain et en Occident, sur les cheveux crépus. Est-ce que vous savez qui c'est Solange, les meufs?
Bah ouais, tu nous l'as dit.
C'est qui?
C'est la sœur de Beyoncé.
Ouais. Et du coup...
Elle est trop belle, ça.
Beyoncé ou sa sœur?
Sa sœur. Ouais, Beyoncé, ta sœur, elle est bonne, t'as vu.
Bon, en tout cas, ouais, c'est la sœur de Beyoncé. Elle prône aussi un féminisme qui n'est pas du tout le même que celui de Beyoncé. Enfin bon, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, donc le thème, c'est les cheveux crépus des femmes africaines. Et en fait, Solange, en 2009, elle a déclaré « Je voulais juste être libérée de l'esclavage que les femmes noires font parfois subir à leurs cheveux. » Elle s'est carrément rasée la tête et puis elle a laissé par la suite pousser ses cheveux. Mais en fait, le moment fatidique quand t'es black, c'est... de laisser les cheveux courts. Quand ils sont longs, ça dérange personne, mais quand ils sont assez courts, ça fait chier tout le monde. Donc elle les a rasés, elle a laissé courts et elle les a laissés friser quand ils étaient courts. Elle s'est affichée, elle en était fière, elle l'a revendiqué et revendiqué. Et donc voilà, elle est reconnue musicalement et populaire aux États-Unis. Et donc avec ces images d'elle, elle a lancé, popularisé le mouvement Nappy. Et là, est-ce que vous savez ce que c'est, le mouvement Nappy?
Non.
Alors, le mouvement Nappy, c'est une dénomination francophone qui vient de Natural Hair Movement, qui vient des États-Unis. Et il désigne tout ce que je viens de décrire. En fait, c'est des femmes noires qui souhaitent conserver leurs cheveux crépus au naturel. C'est un peu comme le mouvement, dans le mouvement des LGBT et des femmes. En fait, les afro-américaines, elles se sont réappropriées le terme, qui était à la base très négatif. Donc c'est un peu comme PD, Gouinas, les gonzesses, les greluches, tout ça. Elles se sont réappropriées le terme et en ont fait quelque chose de positif.
Oui, comme les queers, en fait. Où à la base, queer, ça désignait quelqu'un
c'est ça.
Qui, voilà, où on mettait dans ce panier tous les PD, trans, gouines... bi, etc. Et ils ont repris le terme queer pour revendiquer
c'est ça.
Leur identité.
Oui, mais alors du coup, queer, ça veut dire bizarre, mais nappy, ça veut dire quoi?
Et en fait, nappy, ça veut dire crépus.
D'accord.
En anglais. Enfin, on dit aussi que c'est la contraction de natural happy, naturellement heureux, heureuse. Mais à la base, ça veut juste dire crépus. Mais crépus, quand c'était utilisé à l'époque des esclaves, donc là on va faire un petit point historique, crépus c'était vraiment les sous-hommes, quoi, les noirs, les nègres. Mmh. Donc c'est là d'où ça vient. Et là, le moment où on l'a transformé positivement, c'est quoi, dans les années, fin des années 90, quoi. Et ça s'est vraiment popularisé dans les années 2000. Et donc là je vous ai parlé des esclaves, donc on va faire un point rapide. Historique sur l'évolution de la vision des cheveux crépus et en Afrique et en Occident, donc principalement aux États-Unis où il y a eu les esclaves et en Europe où il y a eu la colonisation. Retour en arrière au 15e siècle. En Afrique subsaharienne, les femmes utilisaient des huiles particulières et des bons peignes pour se coiffer. Et surtout, à cette époque, le temps de coiffure en Afrique, donc j'ai bien dit subsaharienne, hein, pas tout le continent, le temps de coiffure était super important et assez long. En gros, c'était l'activité, enfin c'était le moment d'activité où les mères, les femmes transmettaient des parties de la culture africaine à leurs enfants. Elles transmettaient aussi l'histoire des généalogies à tous leurs enfants. Donc c'était un temps assez important. Et au XVIe siècle arrive la traite négrière. L'équilibre est totalement rompu. En gros, qu'est-ce qui se passe? Les Africains et les Africaines sont balancés dans les bateaux en Amérique, enfin vers l'Amérique. Vous doutez bien qu'elles ont pas, que les femmes et les hommes n'ont pas apporté tous leurs accessoires traditionnels pour leur hygiène corporelle et capillaire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent en Amérique? La première chose que les négriers faisaient, c'était de couper les cheveux des Noirs. Il faut à travers leurs cheveux effacer, enfin en coupant leurs cheveux, effacer leur culture et leur identité et les arracher à toutes leurs origines, toutes leurs racines. Donc là, les esclaves commencent à arriver. Quand ils sont contraints à travailler jusqu'à l'épuisement, et ben les cheveux, c'est le cadet de leurs soucis. Et plutôt que de se retourner contre leurs colons, parce que sinon tu meurs, ils se sont retournés contre leurs cheveux. Ils commencent à trouver des stratégies de camouflage. Enfin, les femmes commencent à recouvrir leurs cheveux de chiffons et de mouchoirs de tête, pour les cacher et aussi pour se cacher de toutes les maladies, donc des poux et de toutes les infections. Arrive le 19e siècle où les navires négriers arrêtent d'arriver d'Afrique et les esclaves en Amérique obtiennent un jour de repos le dimanche. Et là, c'est à ce moment-là que les femmes recommencent à exposer leurs cheveux principalement à l'église. Sauf que en Amérique, on ne trouve pas d'huile de palme ou de peigne adaptée aux cheveux des esclaves. Alors on improvise avec du beurre, de la graisse de bacon, ça c'est pour toi Mimi. Mettez de la graisse de bacon ou d'autres graisses d'animal dans les cheveux. Et puis tout à l'heure je vous ai parlé de la durée des temps de coiffure en Afrique, donc là c'est plus du tout le même. Et c'est surtout plus du tout adapté parce que dans la société des plantations, l'organisation du temps est totalement divisée. Donc là c'est plus une organisation économique comparée à l'organisation culturelle. Vous faites le calcul, il n'y a plus de temps pour les cheveux. Puis dans tous les cas, pour les femmes africaines, prendre soin de leurs cheveux en Amérique, c'est pas du tout la même chose parce qu'on voit leurs cheveux comme des cheveux de sauvages en fait. Donc en gros, les femmes esclaves arrivées en Amérique, elles commencent à considérer elles-mêmes leurs cheveux comme dégradants quoi. C'est pas bon de les montrer. Tout ce temps qu'elles accordaient à leurs cheveux, elles le font plus parce qu'elles n'ont plus le temps. Elles le font plus parce que leurs cheveux sont plus considérés comme des beaux cheveux. On dit beaux cheveux parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on leur disait. Il y a les beaux cheveux, c'est le cheveu des blanches, et les cheveux des noirs. Les beaux cheveux, en fait, c'était surtout ceux qui ressemblaient aux cheveux des maîtres et des maîtresses blanches. Et pourquoi c'était ça? C'est parce que c'était un signe d'évolution et que c'était la clé pour obtenir la liberté, l'éducation, et surtout arrêter d'être esclave. Donc les femmes noires commencent à lisser leurs cheveux avec des produits chimiques comme de la soude, qui est mélangée, il paraît, avec des pommes de terre. Et puis les esclaves affranchis, eux, paraissaient beaucoup plus clairs, ils étaient métis et eux avaient des bons cheveux. Plusieurs décennies qui se perpétuent, donc on oublie l'idée principale de la chevelure crépue. Et arrive la guerre de sécession, donc tous les esclaves sont libérés. Mais cette idée de bons cheveux continue. Donc les Noirs libérés avant la guerre, eux, ils s'accrochent à leur position au sommet et ils utilisent leur comme excuse le fait qu'ils soient plus clairs et qu'ils aient des beaux cheveux. Et on arrive au 19e siècle et là, c'est l'apogée du cheveu défrisé. Toujours pour les mêmes raisons. 1. Les bons cheveux étaient un signe de classe. 2. Les bons cheveux deviennent un bon créneau business. C'est un point important aussi, la création et la commercialisation des produits chimiques pour défriser. Pour que ça devienne de plus en plus facile, mais du coup, de plus en plus de femmes se défrisent. Il y a l'invention du fer à lisser, du peigne chauffant, et plus tard, dans les années 60, des défrisants chimiques. Troisième point, il y a le passage des campagnes aux villes. Donc les femmes dans les villes lissaient beaucoup plus leurs cheveux, parce qu'on considérait que les cheveux frisés étaient archaïques et démodés. Et quatrième point, c'était la liberté, comme j'ai dit tout à l'heure. L'esclavage est aboli, donc les Noirs, ils peuvent grimper aussi dans les échelons... capitaliste, mais pour ça, il faut ressembler aux Blancs. Je passe la partie sur les Black Panthers qui prônent politiquement le retour, pas aux cheveux naturels, mais en tout cas à l'afro, à la mode aussi, les Jackson 5, Nina Simone qui reporte l'afro. Je passe dessus parce qu'en fait, l'afro, c'est pas du tout le retour au naturel. Parce que la coupe afro, c'est pas du tout la coupe que les Africains qui sont devenus esclaves avaient. C'est une coupe d'Afrique du Sud, là où on arrive au mouvement Nappy aujourd'hui, c'est pas du tout le même mouvement que les Black Panthers par exemple.
D'accord.
Donc voilà, je passe sur le mouvement politique des Black Panthers, c'est ensuite la mode afro aussi parce qu'il y avait la période disco, et on en arrive aux années 90-2000 où là, après à peu près 2 siècles, où on a oublié en fait cette partie de l'importance de la coiffure et on a oublié comment s'occuper des cheveux crépus. On retrouve des jeunes femmes noires. Donc là, je parle pas sur le continent africain, je parle vraiment aux États-Unis et en Europe post-coloniale. On se retrouve, alors moi je suis métisse, mais je me suis retrouvée à pas savoir comment m'occuper de mes cheveux. Et donc la norme aujourd'hui, c'était le défrisage. Enfin, c'est encore, mais de moins en moins, c'est le défrisage. Donc résultat, un désamour de sa propre personne, un complexe face aux stéréotypes très négatifs, toujours véhiculés aujourd'hui, et les femmes noires se retrouvent totalement dépossédées de cette histoire dont j'ai parlé sur le temps long de la coiffure et sur le partage de la culture. On est toujours ancré dans cette logique donc, qui est à la fois postcoloniale et à la fois patriarcale, parce que dans les idéaux et stéréotypes actuels, donc quand on suit toute cette évolution-là, la femme noire d'aujourd'hui doit rester un objet de désir exotique, mais pas trop, parce qu'il faut toujours qu'elle respecte les canons occidentaux. C'est là où le mouvement Nappy est intéressant, dans l'évolution, encore une fois, c'est pas le même mouvement que les Black Panthers, où là c'était vraiment une revendication politique, enfin, je suis noire, respectez-moi, et là c'est plus un mouvement personnel, c'est-à-dire c'est rappeler à toutes les femmes noires qu'elles ont le choix. Et que ce choix, c'est pas par rapport à la vision que les autres ont d'elles, ni les autres femmes qui les regardent, ni les hommes qui veulent les valider. Là, c'est un retour aux cheveux naturels, c'est aussi réapprendre à s'occuper de soi et à se dire, je peux avoir les cheveux naturels autant que je peux les avoir défrisés, en dreadlock, en tresse, en tout ce qu'on veut. Donc les cheveux deviennent aussi un champ de bataille pour les femmes noires, mais un champ de bataille qui leur appartient. Et pour moi, c'est important de dire aussi que c'est pas que le retour aux cheveux naturels, ça veut pas dire que si on n'a pas le cheveu naturel, on n'est pas une vraie femme noire. On va pas culpabiliser les femmes qui continuent à se lisser. Juste pour terminer rapidement, la pression qui pèse sur les cheveux des femmes noires, elle a été assez lourde à porter donc depuis cette période de l'esclavage. Et aujourd'hui, c'est particulièrement quand on est jeune. C'est une pression qu'on s'est infligée par toute l'histoire qu'on vient de retracer en bref. C'est une pression qu'on reçoit aussi à travers le regard des autres. Et c'est une pression qu'on s'inflige à soi-même. Donc là, pouvoir garder ses cheveux crépus au naturel, c'est une forme de liberté. Et je me permets d'insister aussi là-dessus, parce que même si c'est pas évident quand on n'a pas des cheveux crépus à s'en rendre compte, mais moi, personnellement, ça fait à peine 2-3 ans que je les laisse au naturel. Parce que quand on est jeune et qu'on a des cheveux crépus et que c'est pas la norme, qu'est-ce qu'on fait ? on cache. Bon, moi, je les défrisais pas, mais par contre, je m'appliquais du gel. Je me mettais des tonnes de gel, je me souviens, au lycée, sur mes cheveux pour qu'il n'y ait rien qui dépasse et pour que ça ne dépasse pas. Et c'était pas juste je veux rentrer dans la norme ou quoi, c'était que moi, je me trouvais absolument hideuse quand j'avais les cheveux lâchés au naturel. Et le moment, là je dis ça fait 2-3 ans, le moment où j'ai commencé à les lâcher, c'est le moment où j'ai commencé à m'assumer en tant que féministe aussi. C'est un tout en fait. C'est la vision que t'as de ton physique, donc qui fait partie de toi aussi. C'est aussi la vision que t'as du regard des autres, donc c'est-à-dire que tu t'en fous en fait. Bon, je m'arrête ici.
Moi, il y a un truc que j'ai pas compris, que t'as dit au début. En quoi le fait d'avoir les cheveux plus courts, le regard des autres en Amérique, là, ce que tu disais, c'est que le problème des femmes noires quand elles se rasent la tête, c'est quand elles ont les cheveux courts, ouais. Au naturel.
C'est pas le regard des Américains sur ça, c'est le regard des Africaines entre elles. Parce que culturellement parlant, ça faisait pas partie des critères de beauté d'avoir les cheveux courts. Quand les esclavagistes coupent les cheveux des Africains, c'est parce qu'ils le savent justement que t'as plein d'exemples des moments où on coupe les cheveux des filles africaines. C'est quand, tu vois, elles ont couché avec un garçon alors qu'elles étaient pas mariées. Enfin, c'est pour les punir en fait. Ouais. On te punit quand on te coupe les cheveux.
Ok, donc c'est vraiment une femme noire qui se coupe volontairement les cheveux. Du coup, c'est là-dessus que c'est choquant, parce que c'est plutôt une punition.
Non, là, c'était plus parce qu'avec toute l'évolution de cette histoire-là, on arrive aujourd'hui, enfin, au moment où elle l'a fait aux États-Unis, c'est tout simplement que oui, ça faisait pas partie de la norme pour une femme d'autant plus populaire. C'est pas dans les normes esthétiques d'avoir les cheveux courts.
Une réappropriation, en fait, de son corps et de ses cheveux. Je vous emmerde, je fais ce que je veux avec mes cheveux.
Ouais, c'était juste fatiguée aussi de... Ouais, j'ai pas parlé de ce point-là, mais c'est que... Sur ce défrisage-là où j'ai beaucoup insisté, c'est le défrisage, ça coûte très 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 cher aux femmes noires, parce qu'il faut le faire constamment. D'abord, ça détruit les cheveux, ça on le sait, mais ça coûte très cher. Et donc, il y a cette idée, pas tellement en France, mais plus aux États-Unis, que les femmes africaines sont... Enfin, les femmes noires... sont coquettes, qu'elles passent plus de temps à se coiffer, etc. Et donc, sauf que ça, quand tu le regardes, c'est une sociologue martiniquaise qui en parlait, et je vous mettrai le lien sur le site. Elle expliquait que tous ces clichés négatifs, ou en tout cas rabaissants pour les femmes, ça vient de toute cette histoire. C'est tout simplement parce que les produits qu'on utilise pour les cheveux crépus, bah, ça prend plus de temps, et il faut en mettre tout le temps, tous les jours.
Ouais, après, tu sens le bacon.
C'est fini le bacon.
Super. Yeah, on enchaîne avec la chanson de Lola Want et après la crocro de Clo-Clo.
Merci Mimi, Zizi, coucou, Néné, machin. Hein?
D'accord.
J'ai pas dit Zizi, j'ai dit Croco.
J'aime pas Clo-Clo cette année-là.
Allez, c'est parti, musique.
Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have,
make up your mind to have.
No regrets,
no regrets.
Recline yourself, resign yourself, you're through. I always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants,
Lola wants,
Lola gets.
Lola gets.
Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in.
Give in, you'll never win.
Whatever Lola wants, Lola gets. I always get.
what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever love the wants, love the gets, take off your coat. Don't you know you can't win? You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in.
Give in, you'll never win.
Give in.
Give in, you'll never win.
Give in.
Et c'est parti pour la crocro de Clo et...
De Clo-Clo ?
De Clo et... Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Ben écoute, on n'en a tellement pas déjà assez parlé. On va alors relancer un petit peu ce débat. Non, en fait, on va partir du burkini pour voir ensemble comment le féminisme peut être utilisé pour légitimer une politique racisée. Donc, depuis 1968, les revendications féministes commencent à intégrer à l'idée qui est brandie par les militants gauchistes, idée selon laquelle tout est politique. Donc elle commence à intégrer le slogan « l'espace privé est politique ». Donc cette affirmation, ça vise à mettre en lumière que les femmes ne sont pas responsables de leur oppression, même quand elles sont vécues dans le cercle privé, et qu'il y a de solutions à ces problèmes que collectives et politiques. Ça veut donc dire que les femmes doivent s'organiser entre elles pour mener une lutte contre le système patriarcal. Et tout ça, ça inclut un bouleversement majeur. Il a fallu revoir la définition du « politique » pour cesser d'en exclure, par exemple, les violences conjugales. Parce que jusque-là, on disait qu'il s'agissait uniquement d'un problème entre un homme et sa femme, de l'espace privé, qu'il avait bien le droit de la corriger s'il voulait, c'est chez eux. Donc il a fallu changer ça, changer notre conception du politique, afin de pouvoir lutter contre ces violences qui touchent quand même chaque année quelques dizaines de milliers de femmes. Or, comme on l'a vu à nombreuses reprises dans cette émission, comme j'aime bien le dire, dire et redire...
Oui, mais c'était l'année dernière.
Alors, je le redis. Une des stratégies principales du patriarcat, c'est de se réapproprier les outils de lutte de ses adversaires. Ainsi, donc, du débat récent sur le burkini. Sous couvert de défendre leur conception de la laïcité, les législateurs, les maires ont mis en place une stratégie pour changer la conception du politique des Français. Mais cette fois, pas pour fédérer ou pour intervenir dans la sphère privée, non, cette fois pour légitimer l'expression publique d'un racisme et d'une discrimination avérée. Donc tous ces tenants, soi-disant tenants d'une laïcité exclusive ou fermée, ils se sont appuyés ici contre la représentation du corps de la femme, en s'appuyant, vous le voyez pas mais je mets des super guillemets, sur le féminisme. Donc tout ce débat sur le burkini, ça cache en fait toujours les mêmes pulsions de domination et d'appropriation par les hommes du corps des femmes. Et dans ce cas, plus particulièrement des femmes racisées. Donc pour pas se rester drapé dans un féminisme gros guillemets, dont les plis masquent un révisionnisme réel, j'ai envie de vous rapporter ici les précisions sur ce sujet de Françoise Vergès, une politologue féministe française, et par ailleurs présidente du comité pour la mémoire de l'esclavage. Je lis ici et là que le fait que des femmes portent un burkini serait contraire au combat féministe des années 1970. Je me demande qui étaient ces féministes dont il est question. Aux États généraux des crimes contre les femmes à la mutualité en 1972, la dénonciation avait été faite de la nudité dans la publicité, de l'instrumentalisation du corps des femmes par le capitalisme. Liberté du corps, de s'habiller comme on veut, ne signifie pas nudité laïque, mais le refus du diktat sexiste et patriarcal et d'un certain conformisme. Pouvoir porter le pantalon au travail, des jupes courtes, des jupes longues, des cheveux courts, des cheveux longs, des chaussures sans talons, des foulards sur la tête, être topless sur la place, porter un maillot, une pièce, comme on veut. Ça n'a rien à voir avec la laïcité telle qu'elle est brandie aujourd'hui. Ce n'était pas au nom de la laïcité que les femmes s'habillaient comme ci ou comme ça et s'habillent comme ci ou comme ça, mais au nom de leur liberté. Évidemment, la liberté en question à l'époque n'était pas complète, mais c'est comme aujourd'hui. On ne vit pas dans une société entièrement libérée des préjugés, normes et conformismes. Mais c'est surtout que la manière dont ces années 1970 du féminisme sont présentées sert une réinterprétation idéologique au service d'une politique racialisée. Elle réduit les luttes féministes à un truc assez dérisoire, le style vestimentaire, alors qu'il était aussi question de libération des femmes, de lutte anti-impérialiste, anti-patriarcale et anti-capitaliste. Et dès le milieu des années 1970, il existait des groupes de femmes immigrées, de femmes réfugiées politiques, puis de la coordination des femmes noires qui parlaient déjà d'autre chose que de style vestimentaire. Donc cette relecture des luttes des femmes dans les années 1970 participe d'un révisionnisme qui tend à effacer des formes de radicalité politique. Et le féminisme, le, qui pourtant a toujours été pluriel, traversé de tensions et de frictions, devient alors dans leur bouche un truc complètement idiot. Donc c'est toujours Françoise Vergès qui parle. « Je ne suis pas toujours à l'aise avec ces termes féministes ou féminisme, mais là, c'est trop. Trop de femmes se sont battues en prenant des risques réels. » Contre les violences faites aux femmes, contre le viol, les lois discriminantes, contre un virilisme dont les hommes sont aussi victimes, pour que leur lutte soit réduite à « ma liberté, c'est enlever le haut puis le bas ». Instrumentaliser ces luttes pour réprimer des femmes aujourd'hui est une insulte. Sauver les femmes de couleur des hommes de couleur, pour reprendre l'expression de Gayatri Spivak, c'est une vieille stratégie coloniale et elle est reprise aujourd'hui. Et les droits des femmes sont utilisés plus que jamais pour contribuer à la répression. Ils deviennent même l'instrument le plus invoqué pour justifier des mesures discriminantes, racistes et répressives. Et il est temps de redonner aux luttes des femmes leur dimension subversive. Et pour faire lien avec cette réflexion et celle soulevée même par Émilie peu avant, moi j'aimerais aussi finir cette chronique en vous lisant un petit extrait d'un article tiré de la revue québécoise féministe À bâbord. Donc c'est un article de Leïla Beider et Anaï Morales-Hudon. Et vous pouvez le consulter sur la page Facebook des Cyprinettes en entier. Donc dans cet article, il va être question du corps des femmes, et plus précisément du corps des femmes de couleur, qui est un champ de bataille, un lieu de lutte pour un nouveau féminisme. Ce corps, en tant que lieu de pouvoir, traduit bien plus que les rapports de domination liés au genre. D'autres rapports y sont en jeu, comme ceux issus du colonialisme et du racisme. Il y a notamment une imbrication des discriminations, c'est-à-dire que non seulement les femmes immigrantes et racisées subissent de la discrimination parce qu'elles sont femmes, mais aussi parce qu'elles sont noires, parce qu'elles sont autochtones, ça c'est un terme spécifique au Québec, portent un vêtement facilement identifiable à un groupe confessionnel, parlent avec un accent non local, ne sont pas diplômées d'une université québécoise, vivent dans la pauvreté, etc., etc. Tous ces facteurs se conjuguent de multiples manières dans la vie des femmes immigrantes et racisées, de façon à les marginaliser davantage, et notamment en les constituant en autres. En France, nous, on retrouve de plus en plus cette manœuvre dans les discours politiques des franges d'extrême droite. Donc pour un féminisme pluriel à plusieurs visages, il me paraît primordial de reconnaître ces femmes comme sujets de pouvoir et donc de dépasser cette objectivation de leur corps comme on essaye de le faire pour le nôtre. Alors, je reprends un petit peu l'article. Nous croyons que cette perspective est une opportunité de penser la résistance des femmes dans toute sa complexité. Le refus grandissant des femmes immigrantes et racisées de voir leur lutte compartimentée provient d'une conscience de l'impossibilité de faire des gains réels sans constamment rappeler la convergence des discriminations diverses. Cette reconnaissance nous invite à porter attention au vécu et aux luttes de résistance des femmes, en évitant d'envisager la résistance comme ne pouvant porter qu'un seul visage ou prendre une seule forme. Il ne fait aucun doute que les femmes immigrantes et racisées sont aussi victimes du système patriarcal et qu'il est tout à fait dans leur intérêt de lutter contre celui-ci, ce qu'elles font d'ailleurs. Et il est important que les mouvements des femmes, le mouvement de libération des femmes, adoptent une approche qui permette de reconnaître leur lutte et leur résistance dans toute leur spécificité et réussissent à penser le corps des femmes racisées et immigrantes non plus comme objet de domination, mais comme sujet de résistance à des systèmes d'oppression qui s'entrecroisent. En reconnaissant la diversité des formes de résistance de nos féminismes, nous, femmes et féministes, d'ici et d'ailleurs, pourrons alors formuler une critique plus complexe des oppressions et transformer les structures sociales et politiques qui perpétuent l'exclusion des femmes. Donc voilà, c'était la Crocro de
Chloé. Le mardi au soleil.
Alors, il faut rappeler que quand j'ai parlé du sujet de cette chronique, ça n'a pas forcément soulevé des masses d'enthousiasme, parce qu'il est vrai que donc, le sujet du burkini a été passé, repassé, a été essoré dans tous les sens du terme. Donc du coup, je voulais savoir maintenant que vous avez écouté un petit peu le pourquoi du comment. C'est bon ? C'est sorti ?
Nous le rappelons, Mimi est malade.
Vous m'avez entendu ?
Ouais.
Oh merde ! On peut même plus être malade tranquille.
Donc, je voulais savoir ce que vous en avez pensé maintenant que vous voyez où je voulais aller.
Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce sujet ? En fait, au départ, j'étais partie réfléchir en me disant, si on veut parler d'islamophobie, il y avait plein d'autres sujets actuels par rapport les migrantes, les réfugiés, eux, et tout ça. Et que le burkini, pour moi, c'était passé, c'était un peu... comme on en avait déjà discuté en aparté à préparer l'émission, que c'était que on parlait du burkini, mais en attendant on parlait pas de tout ce qui se passait ailleurs, comme les migrantes, comme j'ai dit tout à l'heure, et qu'il y avait aussi d'autres sujets pour traiter de l'islamophobie. Voilà, après effectivement c'est une récupération de la société patriarcale comme tant d'autres, en fait, et comme tu en as déjà parlé l'année précédente, et où notamment le Front National a pu jouer sur ça, par rapport au terrorisme qui s'était passé aussi, les attentats en France début d'année. Enfin, il y a eu, je crois que le burkini a connoté tout un tas de choses, dont le terrorisme, en fait, c'est surtout ça. Ils ont essayé de jouer sur la psychose, en fait, et tout simplement, moi j'avais pas forcément envie de re-rentrer là-dedans, mais effectivement c'est une réappropriation et il faut faire attention.
Mais du coup, moi ce que j'essaye de montrer aussi, c'est que c'est un symptôme plus qu'autre chose. J'ai parlé du burkini parce que c'en est une illustration parfaite, mais surtout de réappropriation.
Oui, mais c'est ce que je t'ai dit là.
Non, mais c'est... En fait, c'est la même discussion qu'on avait eue avant l'émission. C'est que, effectivement, l'objectif de ta chronique, effectivement, c'est de montrer qu'il y a une réappropriation. Mais pourquoi encore utiliser le burkini qui, honnêtement... Enfin, c'est ce que je t'avais dit avant aussi. C'est le burkini, si... Personne n'avait joué le jeu des deux, trois premiers qui voulaient se réapproprier le corps des femmes, et etc. Ça serait pas devenu un symptôme important, en fait. Cette réappropriation, elle est surtout... Et plus on va sur les choses inintéressantes... Je dis pas que le burkini est inintéressant. Je dis que le débat sur le burkini, sur qui peut dire le burkini c'est bien et qui peut dire le burkini c'est pas bien, j'arrive même pas à comprendre qu'on soit encore à se poser cette question. Et donc de dire que c'est l'illustration parfaite de la réappropriation, moi je suis pas d'accord. C'est l'illustration parfaite de notre système médiatique et politique où tout le monde rentre dedans et que même nous, quand on rentre chez nous, on continue les débats dessus alors qu'on n'est pas du tout d'accord sur le fait que les médias et les politiques en parlent. Voilà.
Alors, c'est moi qui n'ai pas dû être assez claire, en fait. C'est-à-dire que ce qui m'a gênée, et ce dont j'essayais de parler dans la chronique là, ci-dessus, c'est pas seulement tout cet aspect qu'il y a eu de débat ou quoi que ce soit, c'est quand dans ce débat, l'utilisation du burkini a été légitimée et pas que, je suis désolée, pas que par les franges d'extrême droite ou quoi que ce soit, mais par les arguments féministes. Donc moi, c'est là-dessus que je me basais et c'est là-dessus que j'ai envie de dire faire attention.
Oui, oui. Mais encore une fois, si on n'avait pas laissé la parole à ces trois premiers, aux premières personnes qui ont décidé de lancer ce débat pour qu'on évite les autres débats qui se passaient cet été, il n'y aurait pas eu cette réappropriation-là. C'est pas l'illustration parfaite de la...
Le fait est qu'elle a été. Donc après, il faut la déconstruire, parce que je l'entends encore que non, c'est une honte qu'on pourrait remettre ça ou quoi que ce soit, alors que, enfin, le Conseil d'État a légiféré pour dire que c'était anticonstitutionnel, ces lois-là. Mais je l'entends encore. Mais le fait est que c'est passé et que c'est resté. Donc si on... pour moi, si on prend pas la peine de déconstruire ce qui a été construit cet été autour de ça, à savoir que un arrêté municipal peut permettre des lois discriminantes et raciales et racisées, pardon, si on déconstruit pas ce mouvement-là, le burkiné en lui-même, je m'en fous. Moi, c'est les réactions qu'il y a eu, c'est le fait que ça, justement, de se dire ça a été trop parlé, il y a trop les médias qui s'en sont emparés, il y a trop, c'est, on n'a plus besoin de parler ça pour continuer le combat. Mais non, je suis désolée, moi, toute la réaction qu'il y a, c'est que ça prouve.
C'est pas ça du tout qu'on a dit. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Pour moi, c'est juste un faux débat, point barre, qui soit sur le combat féministe, sur le combat de tout ce que tu veux. C'est, pour moi, c'est un très mauvais exemple, en fait. Sur les problèmes, comme disait Mimi, d'islamophobie et de problèmes aussi des femmes migrantes qui arrivent, des réfugiés. D'accord, là, c'était ce qui se passait cet été. Là, on s'est réapproprié. On s'en est même, les gens se sont même pas réappropriés ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas, il y avait que le burkini. Et effectivement, plus tu parles d'une chose, plus tu en parles, plus ça te rentre dans ta tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent « Oui, mais quand même, c'est bon, maintenant c'est rentré dans la loi, on a le droit d'être contre le burkini. »
J'arrive pas à comprendre comment... Enfin, moi, dans ma conception, c'est un peu la même chose, c'est « Mon corps est un champ de bataille ». Je suis désolée, c'est vraiment dans ce thème-là, c'est à quel point on a utilisé le corps des femmes comme une arme pour défendre telle ou telle idée, pour défendre telle ou telle conception. Donc pour moi, c'est important de déconstruire ça, mais du coup...
Oui, mais par rapport au burkini, on a joué vachement sur la lutte antiterroriste, quoi.
Mais c'est parce pas là-dessus.
Le mélange était trop flou.
Parce que burkini, burqa, burqa, voilà. Enfin, il y a une connotation de terroriste, derrière, quoi. Et on a joué là-dessus. On a joué sur la peur des gens, la peur du terrorisme par rapport aux attentats qui se sont passés en France, à Bruxelles. Et voilà, en fait.
C'est ce qui a été fait à ce moment-là, mais c'est pas ce que j'essaye de mettre en lumière, là.
Oui, non, mais je t'explique pourquoi le burkini, moi, ça me gave de parler du burkini, voilà. Les corps des migrantes, tout ça, enfin, il y a aussi des choses de ce côté-là qui sont aussi à observer et à analyser et qui ont aussi leur place dans les débats et qu'on n'en parle pas, en fait. Qu'on n'en parle pas.
D'où l'importance pour moi d'en parler, nous. Et c'est pour ça que je me suis permise de citer cet extrait d'article, parce que je finis juste ma phrase. Il a été écrit par deux femmes qui sont donc issues d'un milieu certes très, très académique et théorique, mais qui sont au Québec, qui sont autochtones, donc, c'est-à-dire qui sont
des Premières Nations.
Voilà, merci. Du Québec. Donc,
ok, on va peut-être pas continuer cette allée parce que, voilà. On continue, on enchaîne avec la zapette de Marie. C'est parti. Marie, où es-tu, Marie?
Elle est pas là.
Elle est pas là, Marie.
Mais t'es où?
Marie, t'es où?
La zapette des Cyprinettes. Trop occupée que je suis à coller mes écrans. Je ne suis pas là pour le moment, mais je vous propose 4 minutes de méditation. Tour d'horizon de ce qui se dit sur la toile, sur les ondes, et dans le petit carré illuminé qu'on appelle télé.
Ah, j'ai honte gros de les voir si cons mes contemporains, si dissemblables mais semblables.
Du bon comme du mauvais.
S'écouter parler ou se faire entendre.
À vous de trier.
Bonjour Tristesse.
Alors c'est un article tiré du site WikiHow qui nous explique comment faire pour être une fille féminine. Soyez gracieuse. Les filles vraiment féminines donnent l'impression de flotter.
Finalement la beauté. C'est un cadeau empoisonné quand même un peu.
Alors leur autre obsession, ça a été le burkini. Oh putain, ils nous ont fait 2 semaines. Il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, t'allumais ta télé pendant 3 semaines, ça parlait slibard. Putain, alors quelques rappels par rapport au burkini. Déjà, l'attentat à l'impudeur n'existe pas encore en France, d'accord? Donc on a le droit de s'habiller comme on veut. C'est comme ça. Donc un scoop pour toi, le relou. Tu as le droit de ne pas aimer. Tu peux trouver ça dérangeant, comme il y a d'autres gens qui peuvent trouver dérangeant le fait que des femmes bronzent seins nus. Mais c'est pour ça qu'on a inventé la loi, tu vois, pour arbitrer entre vos avis, là, qui sont ethnocentrés et qui sont subjectifs, en fait, pour nous permettre de cohabiter ensemble. Tu peux comprendre ça, bordel de merde?
Arrêtez de jurer. Commencez par remplacer vos jurons habituels par des mots de remplacement comme punaise.
Punaise?
Non mais l'énergie perdue à avoir des complexes et tout, mais laisse tomber, je te le dis tout de suite, hein.
C'est quand même affligeant. Ils disent la laïcité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression religieuse dans le domaine public, sur les lieux publics.
Punaise.
Non, c'est l'exact inverse en fait. La laïcité, c'est nul ne doit être inquiété pour ses convictions religieuses et chacun peut exprimer ses convictions religieuses dans la limite du trouble à l'ordre public. Faudra m'expliquer en quoi un maillot de bain peut troubler l'ordre public. Expliquez-moi.
Et alors elles sont en maillot comme ça, avec les deux doigts dos, puis elles se claquent le cul comme ça entre copines. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas?
Punaise! Veillez à ne pas péter, rôter ou vous curer le nez devant les autres. Est-ce qu'on s'attarde là-dessus? Non!
T'imagines le boulot quoi, faut toujours être à la hauteur du fantasme que tu représentes, t'as pas le droit à l'erreur.
En plus, la vérité, les gens de l'Assemblée, là, les politiques, vous en avez rien à foutre des femmes. Cet été, vous avez recalé un projet de loi pour rendre inéligibles les élus qui étaient convaincus d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel, et vous parlez de libération de la femme à tout bout de champ, là.
Je te jure, des fois, je me dis quand même, qu'est-ce qu'elles diraient, nos anciennes, si elles voyaient ça, quoi. Tout ça pour ça, t'imagines?
Putain, dès qu'il y a une femme qui se pointe à l'Assemblée en jupe, vous pouvez pas vous empêcher de siffler, de faire l'hélicoptère avec votre bite en gueulant comme des porcs.
Tout ça pour ça, t'imagines?
Vous êtes des porcs.
On commente tes tenues quand tu proposes des lois, on te renvoie à tes fourneaux quand tu te bats, on te traite de pain beige quand tu commandes, et on parle de tes enfants quand tu diriges une entreprise, mais tu t'en schlagues, puisqu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée.
Quand même une galère hein, d'être une égérie, une muse, une Lolita et tout.
Donc on se dit, ces femmes-là sont sous le joug du patriarcat, il faut les sauver.
Non.
D'accord.
Ta gueule!
Ah, oui, pardon.
Donc du coup, toi, tu les sauves en les stigmatisant. En fait, tu vois, même si on suit ton discours, tu fais d'elles des doubles victimes. Je veux dire, tu veux émanciper les femmes en les amendant et en les excluant de l'espace public. Oh, ça se discute. C'est con, mais on peut y voir une certaine logique, éventuellement.
Et si nous mettons toutes nos forces en commun, un jour, oui, un jour, nous pourrons vaincre... Ma moussaka est prête!
Mais continuez à stigmatiser, allez-y, les musulmans, continuez à les stigmatiser. De toute manière, ça, c'est du pain béni pour Daesh. Ils s'en régalent. Et puis, c'est l'inventeur du burkini qui se frotte les mains comme Morandini devant un mineur un peu influençable. Parce que ces ventes, elles ont explosé, mon copain.
Alors, je vous rappelle qu'on n'est pas là pour aider ces femmes à se soustraire à la domination masculine. Hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour aider ces femmes à se soustraire à la domination masculine. Hein. Sinon, on créerait des centres pour les aider, comme il en existe, par exemple, au Canada. Si on va à la plage, on veut voir de la viande, bordel. Hein, je veux dire. Alors, même si c'est de la viande halal, hein, ben on la laisse pas dans l'emballage. Voilà. Non, non, on est là comme la police française pour les obliger à se dessaper. Hein.
Alors, donc elles sont là dans le petit clip, toutes les deux. Elles sont dos à dos, comme ça. En... Et alors, elles sont en maillot, comme ça, avec les deux dos à dos, puis elles se claquent le cul, comme ça, entre copines. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas?
Enfin, j'ai une phrase de Napoléon, pour finir, qui avait dit « L'absurdité en politique n'est pas un obstacle ». Voilà, putain, Napoléon, au moins, s'il avait le mérite d'être un enculé qui s'assume, bordel de merde. Et bonne semaine de merde, copain.
Qu'est-ce qui a dit que tu pouvais pas viser les étoiles?
La zapette des cyprinettes.
Waouh.
Bah merci Marie.
Ouais, ouais. Merci Marie.
Bah, on était en plein dedans. Hein.
Ouais, oui, non, là ça là, colle un truc. De... En fait, elle est vraiment là, même si elle est pas là, tu vois. C'est... Elle nous environne.
Coucou ouais. Marie. Et on s'était... Tu es devant tes écrans.
Et on s'était même pas rencardé pour ça. C'est beau.
C'est beau.
Mmh, ouais. On continue. Donc je vais vous lire un petit texte tiré d'un bouquin qui s'appelle « Mon corps est un champ de bataille ». C'est un bouquin de témoignage paru en octobre 2004 qui questionnait une certaine représentation du corps et des femmes dans notre société occidentale. Il a été le support de nombreux échanges et partages d'expériences. Ce tome 2 fait suite à un appel à contribution, donc comme je vous disais, un livre de témoignages, des récits, des poèmes, des dessins, des photographies, et qui ouvre une parole et des représentations plus diverses et subtiles. Vous le trouverez à l'édition Ma Colère. Claudine Labègue, octobre 2008, dans le port d'Amsterdam. Loïc, plombier, pianiste, chanteur, auto-compositeur. Un petit gars bourré de tics qui avait une toute petite bite coincée dans sa braguette. C'est la plus petite que j'ai jamais vue. Et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que s'il avait été monté comme un mammouth, j'en serais morte et ma mort aurait été préhistorique. Il me l'a planté au fond du ventre, comme on plante un couteau sans crainte d'arrêt. Un soir, dans ma chambre. Et ce petit couteau-là, c'était le premier à fouiller dans ma chair. Il a été coupant, très coupant. 8 cm le long de mon couloir de la petite mort. Pour vous donner une idée, en temps, c'est long comme toute une vie. 8 cm qui ne se refermeront jamais. Loïc avait 8 ans de plus que moi et j'en avais 18. Un homme. C'était un homme à mes yeux noyé de bleu. Je l'ai pris pour un homme. Il a dit « Y en a marre des baisers. Moi je suis un homme, un vrai. J'ai pas besoin de jouer à la poupée. J'ai besoin de balles dans le fusil, moi. Tu comprends ?» Oui, je comprenais. Et j'avais très peur. Et pas confiance du tout. Et j'étais pas prête. Voilà, pas prête. Ça aurait dû être suffisant comme réponse. Mais lui n'entendait pas du tout la musique de mes mots, ne voyait pas du tout l'importance de mes mots. Il a continué. Il m'a dit que j'étais bien la seule sur Terre à ne pas saisir cette magnifique occasion et que si je ne m'y mettais pas maintenant, je finirais vieille peau. J'ai redit « je suis pas prête ». Je lui ai quand même ouvert mon jardin, comme on ouvrirait sous la menace d'une arme. Il est arrivé en moi plus vite qu'une lame de sabre, un éclair de jet, de foudre en chair et en os, la fin du monde, la fin de moi. Je me suis sentie dire « défigurée ». Voilà, c'est le mot « défigurée ». Je ne savais même pas que cette partie de mon corps existait. Je l'entrevoyais à peine que déjà elle était abîmée pour la vie. J'ai hurlé un cri de bête sauvage. Ça lui a fait peur et son beau petit 7e ciel à lui tout seul s'est éteint avec toutes ses étoiles en même temps. Ça, il n'a pas aimé du tout et il m'a dit « Ne recommence jamais ça, c'est un coup à rendre impuissant un mec ». Il a râlé, il a secoué sa mouillette, il a remonté son pantalon, il y a fourré en vrac son petit outil, il a roté un coup comme les marins d'Amsterdam et il m'a juste dit une dernière phrase sans mots, sans chrysanthème sur ma virginité. Il a dit « Tu seras jamais une femme » et il est parti. Il avait raison. Je ne suis pas devenue une femme. Je suis devenue un monstre de perversité. Loïc était le premier, un acte définitif, une semence sur les chemins de sens. Mon corps est une terre qui se nourrit de souvenirs, et comme on n'a jamais vu pousser des roses là où on a planté des clous, il me restait 2 possibilités, mettre mon corps en jachère ou le vendre. Je n'ai pu attendre, je l'ai vendu contre de grands péchés en échange de tous les vices. Depuis ce jour, mes plaisirs ne sont qu'une monnaie d'échange, échange branlette contre réparation. Loïc était breton et fier de l'être. Il était aussi issu d'une famille de marins du côté de Cancale. Il n'y a pas de quoi faire une chanson.
Dans la roche, quand est-ce que tu reviendras? Je t'aimais, mais je t'ai
c'est pas respecté. Quand est-ce que tu reviendras? Ton nom est inscrit sur l'écorce. Reviendras-tu dans ces bois? Je t'aimais et j'ai tout fait foirer. Quand est-ce que tu reviendras?
Qu'est-ce que le consentement? Alors si je reprends la définition du Larousse, action de donner son accord à une action, à un projet. Le consentement, quel joli mot. Le consentement, c'est sexy. Le consentement, c'est la base de toute relation sexuelle intime. C'est-à-dire qu'il est un peu obligatoire de demander à son ou sa partenaire si il ou elle est d'accord avant même de commencer la relation intime, ou je dirais même l'acte sexuel. Un oui, clairement, ok. Feu vert, pas de souci. Un long silence avant réponse, stop. Qui ne dit rien ne consent pas. Un non franc, ben là, tu l'auras compris, tu calmes tes ardeurs direct. Alors j'ai vu sur internet qu'il y avait tout un tas d'exemples pour expliquer le consentement. Parce que apparemment les gens ne comprennent pas quand on parle de relations sexuelles. Donc on est obligé d'y faire différemment, d'imaginer tout un tas de trucs, de faire des mises en scène. Donc par exemple, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a deux personnages qui boivent le thé. Un qui invite l'autre à boire le thé et il lui dit « bah oui, oui, je veux bien boire une tasse de thé avec toi ». Donc ils partagent une tasse de thé tous les deux. Le lendemain, il lui dit « hey, viens, j'ai du thé ». L'autre, il lui dit « mais non, j'ai pas envie de boire du thé aujourd'hui, merci ». Bah, t'as pas envie de boire du thé, mais hier t'as voulu boire un thé. Pourquoi aujourd'hui tu veux pas boire un thé ? Non, mais je suis un peu fatiguée. Oh, ben viens, allonge-toi, et puis je vais quand même préparer un thé. Mais je t'ai dit que non, je ne voulais pas boire du thé. La personne s'endort. Qu'est-ce que fait l'autre ? Il lui fait boire le thé de force, alors qu'il dort et qu'il est inconscient. C'est magnifique. Il y avait aussi une autre illustration où c'était un voisin qui était en panne de voiture et qui demande à sa voisine « Je peux t'emprunter ta voiture, la mienne est en panne. » « Mais bien sûr, prends ma voiture. » Donc il lui prend sa voiture le lundi. Le mardi, sa voiture est toujours en panne. Et il prend la voiture de la voisine sans lui demander. La voisine, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu prends ma voiture sans me demander. Voilà, encore un acte de non-consentement. Un exemple. Et il y avait aussi, pour terminer, il y avait voilà, ils étaient en soirée, un peu alcoolisés. Il y a un gars qui dit à une pote « Ouais, j'aimerais bien me faire un tatouage, machin et tout. Ah ouais, tu veux te faire un tatouage, c'est trop cool. Ouais, cling, cling, chling, chling. » Ils sont bourrés. L'autre, tellement qu'il est bourré, il s'endort. Et là, bim, la nana lui fait un tatouage. Et il se réveille et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as tatoué alors que je dormais. Je n'étais pas consentant pour que tu me tatoues. » Voilà à quoi on nous en est réduit aujourd'hui pour aborder le terme du consentement. Cela tient à une voiture, un tatouage ou une tasse de thé. Bordel, c'est pas compliqué. Quand c'est non...
C'est non.
C'est non. Non.
Quand c'est...
Oui, vas-y.
Bah, c'est non.
Et quand c'est... ouais... Je sais pas.
C'est non.
Voilà. Je sais pas si vous...
Et quand c'est oui...
Ah, c'est ouais. Ouais.
Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable. Si je te dis non, c'est définitif. Tort ou à raison, toujours excessif. Quand j'ai décidé, c'est irrévocable. Je suis peut-être une enfoirée, mais c'est non négociable.
sexy sushi.
Ouais.
Qui passe le 9 décembre.
Ça a dansé dans le studio.
Si je te dis non, c'est définitif.
Qui passe au burkini. Non, elle passe au bikini à Toulouse le 9 décembre. Enfin, il et elle passe. Eh bien voilà, c'est l'heure de nous quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment dans nos culottes. En tout cas, nous, on y était bien. Merci Radio Larzac, merci Émilie qui va avoir du taf pour la technique. Et puis on se retrouve le mois prochain pour lubrifier avec vos consentements, vos
et
esprits.
Et avec un nouveau générique.
Et avec un nouveau générique,
avec
ouais.
Avec plein de cyprines partout.
Ça va dégouliner. Bisous.
Bisous.
Debout.